Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Comment faire pour que le divorce n'impacte pas trop les enfants ? Marion, avocate en droit de la famille, nous a partagé à travers sa riche expérience quelques conseils pour aborder le divorce avec les enfants. Nous avons donc parlé de garde alternée, de bons et de mauvais divorces, de l'organisation à la maison, et surtout, de communication pour que cet événement souvent difficile émotionnellement protège avant tout les intérêts des enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marion.
Bonjour Sylvie.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du divorce et notamment de son impact sur la famille. Comme je vous le disais hors micro, de nombreux auditeurs nous ont sollicité à ce sujet, donc cette rencontre tombe à point nommé. Pour vous présenter brièvement, vous êtes avocate en droit de la famille à proximité d'Argenteuil et de Cergy. Vous avez donc bien connaissance de tout ce qui se passe autour du divorce. Et pour démarrer cet échange, j'aimerais bien en savoir plus sur les chiffres du divorce en France, de savoir où nous en sommes, est-ce que ça continue de grandir, combien dure en moyenne le divorce en France. Voilà, si vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon des chiffres ou même de l'évolution du divorce en France.
Ok, mais je vais. C'est parti. Effectivement, alors sur la durée du divorce, je pourrais pas vous apporter de réponse claire puisque ça dépend notamment des juridictions. Dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, il y a plusieurs juridictions. À Pontoise, là où j'exerce principalement, on a des vraies difficultés en termes de délai, puisque nous sommes sur un divorce moyen à 24 mois, mais il y a des juridictions qui sont évidemment bien plus rapides, où nous sommes sur des délais de 12 à 16 mois. Mais on peut considérer quand même de manière générale que pour un divorce, il faut compter 20 mois et à compter d'un point de départ qui est celui où on lance la procédure. Avant, évidemment, il y a toutes les étapes qui sont notamment la première consultation chez un avocat et qui avec lequel vous allez pouvoir déterminer le type de divorce que vous souhaitez mettre en œuvre. Hein. Il en existe 4. Un amiable, le divorce par consentement mutuel, hein, par acte d'avocat enregistré chez le notaire. Donc là, il faut avoir un accord sur l'ensemble des points du divorce, tant ceux qui concernent les époux que ceux qui concernent les enfants, et également en ce qui concerne les biens. Et puis après, nous avons trois autres divorces, les divorces qu'on dit contentieux, c'est-à-dire des divorces où les époux n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'ensemble des modalités. Et là, va y avoir trois types de divorces, comme je vous l'indiquais, à savoir en premier lieu le divorce pour acceptation du principe hein, de la rupture du mariage, c'est-à-dire que en fait les parents sont d'accord sur le principe du divorce, mais pas sur les modalités. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ça veut dire qu'il faut être séparé et ne plus vivre ensemble depuis au moins un an. Et le divorce, bien connu, mais qui est maintenant de plus en plus désuet, le divorce auto-exclusif de l'un ou l'autre époux, ou dit divorce pour faute. Alors, sur les chiffres du divorce, on prend les données INSEE, hein, qui sont quand même les données les plus justes, et on a une difficulté pour donner des chiffres postérieurs à 2016, puisque à partir de cette date, à partir du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel hors juge, c'est-à-dire hors d'une juridiction, a été mis en œuvre et on ne peut pas récupérer ces données pour l'instant. Mais en 2016, considérait qu'il y avait environ 1,86% de divorces pour 1000 habitants, ce qui représentait 128 000 divorces à peu près par an, étant précisé qu'on avait eu un pic en 2005 à 150 000 divorces par an. Alors on a le sentiment que les chiffres augmentent et en réalité c'est assez faux. Quand on regarde les chiffres depuis 1995, effectivement depuis les années 2000 il y a une augmentation, mais après on a une stabilité et on n'a pas d'augmentation notable. Ça varie selon les années sans qu'on ait réellement d'explication pour expliquer les raisons pour lesquelles il y a une augmentation sur certaines années.
Oui, je comprends. Et il y a quand même une différence de chiffres en termes de divorce entre Paris et les grandes villes et le reste de la France ?
Oui, alors il y a une différence évidemment qui est liée aussi à la population hein, et au nombre de personnes qui vivent dans une région. Alors, l'Île-de-France et Paris évidemment sont particulièrement concernées par les divorces. Hein. Il y a un mariage sur deux qui termine en divorce et on est plutôt en région parisienne et on est plutôt sur 1 sur 3 dans les autres régions. Et je pense que c'est lié aussi à la manière de vivre hein, au quotidien, beaucoup plus stressant, y compris le temps de transport pour se rendre au travail. Et finalement, c'est assez marrant parce que on a estimé que la période sanitaire que l'on connaît avec la Covid allait amener à plus de divorces. Et en fait, c'est pas significatif parce que je pense que en fait les gens se sont aussi rapprochés, ont passé plus de temps ensemble, notamment en région parisienne, et ce qui a finalement limité les divorces.
Ouais, c'est intéressant. Je pensais que c'était le contraire en effet.
Alors, il faut mesurer ce que je dis dans le sens où je pense que des couples où s'exerçaient déjà des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ont eux explosé parce que évidemment. Les gens sont, enfin les couples sont restés ensemble et forcément sans sortie externe, extérieure, ça a multiplié les moments de violence. Mais par contre, pour les autres couples, même avec du conflit beaucoup plus classique, je dirais, là il n'y a pas eu d'augmentation de divorce.
Et c'est quel type de divorce qui est le plus pratiqué ?
C'est une question assez difficile. En tout cas, moi, dans ma pratique, ce que je remarque, c'est que plus le divorce repose sur un accord commun, plus évidemment on s'oriente vers des consentements mutuels qui, à mon sens, sauf dans les cas de violence conjugale, est quand même le divorce qui permet d'assurer les intérêts des enfants, leur stabilité. Et après, si on va sur les divorces, comme je vous disais, contentieux, la majorité des divorces sont prononcés pour altération définitive du lien conjugal, à savoir la séparation de fait depuis au moins un an.
Et alors, quand un parent souhaite divorcer ou quand des parents souhaitent divorcer, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelle est la marche à suivre d'un point de vue juridique ?
Alors, dans le cas d'un divorce, l'avocat est obligatoire. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'aller consulter un avocat. Avant, vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un médiateur pour essayer de discuter immédiatement avec l'autre époux. Mais sur l'aspect purement juridique, il faut rencontrer un avocat qui va vous exposer finalement ce que je viens d'indiquer avant, hein, notamment sur les types de divorces. Puisque lui va vous expliquer quel type de divorce existe et vous allez pouvoir lui vous retranscrire la situation familiale que vous connaissez et il va vous orienter sur le divorce qui préservera au mieux vos intérêts et aussi ceux des enfants parce que ça c'est un point qui est extrêmement important et ça va dépendre vraiment des situations, les petits conflits, les grands conflits et la situation des violences conjugales.
Oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'on trouve son avocat ?
Alors, pour trouver son avocat, Il y a plusieurs solutions. Je pense qu'il y a une question de proximité qui est importante. La proximité, c'est une proximité d'abord géographique. Donc, soit proche de son travail pour pouvoir aller le rencontrer, puisque l'avocat a évidemment aussi des horaires et pas une disponibilité constante. Donc, il faut aussi pouvoir aller le voir à un moment où on a du temps. Et il faut prévoir environ, au moins pour le premier rendez-vous, une heure de temps. Et puis, sinon, à côté de chez soi. Et le mieux, je dirais aussi, pour une question économique, c'est de prendre un avocat dans le ressort du tribunal. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, à Pontoise, il vaut mieux prendre, puisque le tribunal judiciaire où se situe le juge aux affaires familiales est à Pontoise, il vaut mieux prendre un avocat qui est donc dans le 95 pour effectivement limiter l'aspect économique et le coût de l'avocat.
Très clair. Alors, vous avez mentionné plusieurs fois les enfants. Et c'est le sujet qui nous intéresse quand même beaucoup aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique le divorce aux enfants ?
Alors, c'est une question qui est quand même assez, assez difficile, puisque je pense que les enfants ont besoin d'être accompagnés par les deux parents. Or, au moment où les parents divorcent, ils sont pas dans cette du tout dans cette perspective puisqu'ils arrivent souvent plus à se parler et c'est extrêmement difficile. Mais de toute façon, ils doivent montrer aux enfants l'unité du couple parental qu'ils vont rester, qu'ils vont être toute leur vie, hein, vis-à-vis de leur enfant. Et donc, il faut leur expliquer, les déculpabiliser, leur expliquer de manière claire ce qui est en train de se passer. Donc, il faut aussi en avoir discuté au préalable entre les parents, leur expliquer de manière extrêmement claire ce qui est en train de se passer. Il faut pas passer par quatre chemins. Il faut leur dire qu'il y aura une séparation, mais qu'ils vont continuer à voir papa et maman. Il faut les rassurer sur le fait que eux, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a énormément de culpabilité chez les enfants. Et puis, il faut aussi leur dire que on ne sait pas forcément exactement comment ça va se passer. Il faut être honnête avec eux. Il ne faut pas les surprotéger parce que sinon, on les met de côté dans une situation qui finalement les concerne.
Oui, c'est vrai. Et je suppose que la communication varie aussi en fonction de l'âge. Comment est-ce qu'on fait quand les enfants sont en très bas âge ?
Alors finalement, quand les enfants sont le plus petits, c'est peut-être pas là où la situation est la plus complexe, puisque eux, ils s'adaptent énormément. Et donc, de la même manière, c'est plutôt une question de vocabulaire. C'est-à-dire que on peut pas dire aux enfants « papa et maman, ils vont divorcer ». Pour eux, ça n'a pas de sens, ils comprennent pas ce mot. Donc il faut bien leur expliquer que ça signifie qu'ils ne vivront plus tout le temps avec papa et maman, mais qui continueront de voir papa et maman, et surtout qui continueront à être aimés de la même manière par papa et maman. Et puis, il faut aussi leur expliquer potentiellement que, là, on peut commencer à leur expliquer ce que c'est les relations humaines, puisque ce n'est qu'une relation humaine, hein, le couple, et qu'elles évoluent. Et pour eux, c'est aussi assez important. Alors, avant 3 ans, c'est très difficile. Il y a pas les bons mots. Ils subissent énormément avant 3 ans les séparations. Et puis, on se rend compte que c'est aussi, ça devient très difficile pour les enfants à partir de 8-9 ans, parce que pour eux, c'est un bouleversement total de leur vie et de leurs habitudes. Et donc, ils n'arrivent pas du tout à s'éloigner de la, en tout cas, à ne pas être complètement extérieur à cette situation, et il faut les préserver. Il y a une question de leur apporter énormément d'affection, d'amour, et il faut le répéter régulièrement pour que on évite les problématiques qui se présentent le plus souvent par la suite, à savoir culpabilité, tristesse, confusion. Ça passe par l'amour, de toute façon, qu'on donne à ses enfants.
Parce que justement, les enfants, ils peuvent être intégrés à cette démarche. Que ce soit administratif, judiciaire, est-ce que, je suppose notamment pour les questions de garde, et je pense que ce serait intéressant que vous en parliez, mais à quel point les enfants peuvent être impliqués dans toute cette démarche jusqu'à ce que le divorce soit prononcé ?
Moi, je pense que ce sont encore les parents qui décident de ce qui est bon pour leur enfant, au moins jusqu'à un âge qu'on considère comme étant celui très très large de discernement. mais qu'on peut fixer à peu près l'âge de 8-9 ans. Donc les parents, en fait, ils doivent sûrement arriver avec un projet pour leur enfant. Mais il y a une obligation légale qui est celle, à partir de cet âge de discernement, de les informer qu'ils ont le droit d'être entendus par le juge. Et donc, de fait, d'avoir un positionnement dans ce divorce. Et c'est une très bonne chose pour les droits de l'enfant, mais malheureusement, ça les place très souvent dans un conflit de loyauté parce que eux, ils ont le sentiment qu'ils doivent décider avec qui ils doivent rester et comment ils doivent voir leurs autres parents avec lesquels ils ne seront pas au quotidien. Mais il faut leur en parler, il faut leur dire, voilà, nous, ce qu'on pense qui est bon pour toi, c'est que tu restes vivre avec papa ou maman et que tu vois papa ou maman un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ou on pense que le mieux, c'est que tu passes une semaine avec maman, puis la semaine d'après avec papa. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, là, on leur laisse vraiment cette possibilité. Ils vont se poser beaucoup de questions. Et les questions, ils les poseront pas tout de suite. Ils vont les poser, en général, ils les posent à des moments totalement inattendus, en plein repas, en disant, mais en fait, du coup, comment je vais manger, justement, avec papa ? Parce que c'est toujours maman qui fait à manger, ou inversement. Et donc, voilà. En fait, finalement, bien sûr qu'ils sont inclus dans ce process, mais pas de la même manière que le fait un adulte dans une discussion en face à face.
Et quelles sont les dispositions, donc vous l'avez évoqué, autour de la garde alternée ?
Alors, la garde alternée, c'est pas un principe pour l'instant. En tout cas, ça a été évoqué, mais on n'en a pas encore fait un principe juridique. On estime que la résidence alternée, en termes d'égalité parentale, il faut toujours y penser. Après, la garde alternée, ça demande quand même que les parents aient une capacité à s'entendre. Et pour ça, ils doivent comprendre aussi que même si pendant le temps du mariage, il y avait un des parents qui était plus investi que l'autre, c'était la décision du couple. Et que ce n'est pas pour autant que par la suite, l'autre parent qui était, semble-t-il, moins investi ne pourra pas s'investir plus qu'il le faisait avant. Au contraire, finalement, tout change. C'est le principe même du divorce. C'est un bouleversement pour tout le monde. Et donc, en fait, on estime, et les juges aux affaires familiales estiment que les parents peuvent parfaitement s'adapter et changer par rapport à leur habitude ancienne du temps du couple. C'est vrai que aujourd'hui, si les conditions de mise en œuvre de la résidence alternée qui sont reposent sur plusieurs critères, qui est d'abord un critère géographique. Évidemment, il faut qu'il y ait une proximité entre les parents pour pouvoir mettre en place une résidence alternée, puisque c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime. Et l'enfant, il doit avoir le même rythme de vie quand il est chez papa ou chez maman ou chez maman ou chez papa pour en fonction du type de couple. Et donc, cette proximité géographique est essentielle. Un enfant, il doit pas se lever à 6 heures une semaine et à 7 heures l'autre semaine. Il doit pas mettre 35 minutes pour aller à l'école une semaine et 5 minutes la semaine suivante. Ce n'est pas possible pour lui. C'est un trop gros bouleversement. Et puis, en tant que parent, je crois qu'il faut justement, quand on pense à cette question-là, se placer du côté de l'enfant et se dire, est-ce que moi, je supporterais en tant qu'adulte de subir de tels bouleversements quotidiens. Alors, les enfants s'adaptent, mais les enfants, ce sont des êtres à part entière. Et donc, je pense qu'on peut se dire, est-ce que moi, je pourrais changer de lieu de vie tous les deux jours ou est-ce que je pourrais le faire toutes les semaines ? Et si vous estimez que pour vous-même, ce n'est pas possible, déjà, vous êtes en train de poser une première question. Après la disponibilité, enfin la proximité géographique, il y a aussi nécessairement un équilibre économique. C'est-à-dire que c'est bien si effectivement il y a un équilibre économique chez papa et chez maman pour pas que l'enfant ait des conditions de vie totalement différentes en fait au domicile de chaque parent, ce qui peut parfaitement être compensé par même dans le cadre d'une résidence alternée l'allocation d'une pension alimentaire. Hein, c'est des choses qui se font beaucoup. Et il y a ce mythe de dire quand on est en résidence alternée il n'y a pas de pension alimentaire, c'est totalement faux. S'il y a une vraie différence économique entre les parents, le juge met en condamne l'autre parent à régler une pension alimentaire pour avoir cet équilibre économique. Et le dernier point, qui est le point le plus difficile, c'est l'entente entre les parents. Et l'entente entre les parents, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a des parents qui vont créer volontairement du conflit pour éviter la mise en œuvre d'une résidence alternée. Finalement, la résidence alternée, elle peut résoudre un peu le conflit puisque les parents peuvent limiter en fait leur contact. Si l'échange de bras se fait le vendredi à la sortie de l'école, en fait les parents ne se parlent pas. Simplement, ils ont besoin de se parler. La coopération parentale, elle est essentielle pour que l'enfant vive bien la résidence alternée, mais globalement bien la séparation. Et donc, il y a quand même un accompagnement commun qui est nécessaire. Il faut discuter, peu importe le mode de résidence entre les parents. Ça détruit un enfant. Et là, je voudrais aborder un point. Il faudrait que les parents arrivent à penser aux conséquences négatives du divorce à court terme lorsqu'ils sont dans un conflit important, à savoir souvent une baisse du rendement scolaire, une faible adaptation psychologique, émotionnelle, ce qui va créer chez eux un concept assez négatif, une très mauvaise vision de leur personne. Et en plus, ça va créer aussi une mauvaise vision de l'un ou l'autre parent. Et ça, faut à tout prix l'éviter pour qu'ils puissent eux aussi s'épanouir correctement par la suite dans leur vie immédiate d'enfant, mais aussi dans leur vie future d'adulte.
Oui, oui, même dans l'image du couple qui se
tout à fait.
Et alors, comment ça se passe quand un enfant n'est pas d'accord avec le système de garde qui lui est proposé?
Alors, comme les parents ont l'obligation d'informer leur enfant de leur droit à être entendu, l'enfant a la possibilité, voilà, pour être très clair, on doit remettre au juge des affaires familiales un document signé, alors c'est une déclaration évidemment sur l'honneur, hein, mais un document signé indiquant qu'on a effectivement informé l'enfant de son droit à être entendu. Et si l'enfant le souhaite, il doit rédiger une lettre au juge aux affaires familiales dans laquelle il demande simplement à lui parler, hein, à le voir pour pouvoir lui parler. Et une fois que le juge a organisé le moment de l'audition, il va pouvoir rencontrer. Alors, avant c'était le juge, maintenant ça passe beaucoup par des organismes type enquête sociale avec des psychologues qui vont les entendre et qui vont leur dire bah tu voulais me voir, qu'est-ce que tu souhaitais me dire? Et là ils vont pouvoir exprimer, mais on va aller beaucoup plus loin que leur simple volonté, on va leur dire mais pour quelle raison? Et là ça peut permettre éventuellement de démontrer une instrumentalisation de l'enfant par l'un ou l'autre parent.
Ah ouais, c'est important de le préciser. Et dans les faits, alors je suppose que c'est quelque chose que vous vivez quotidiennement, mais je suppose que c'est quand même rare les divorces où il y a une réelle coopération entre les parents, une entente, parce que déjà eux, émotionnellement, ils vivent un bouleversement fort, donc je suppose que c'est difficile en plus de se mettre à la place des enfants quand nous-mêmes émotionnellement on est chamboulé. Comment faire dans ces cas-là, quand on est face à des parents qui sont, comme vous le disiez, dans des grands conflits, dans l'incapacité de s'entendre et qui vont jusqu'à l'instrumentalisation des enfants? Comment ça se passe? Comment arriver à résoudre tout ça?
Alors, le parent qui... alors, déjà, je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il y a beaucoup de divorces qui se passent très bien.
Tant mieux.
Il y a beaucoup de divorces qui se passent très bien. Évidemment, nous, avocats, on est surtout confrontés aux situations familiales les plus difficiles. Mais comme on est obligé de divorcer via un avocat, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent à s'entendre pour les enfants et pour les grandes lignes de leur divorce. Et ça, c'est très, très important à préciser. Il ne faut pas qu'au moment où on décide de divorcer, on parte avec l'idée que ça va être un conflit. Forcément. On peut résoudre ensuite le conflit avec des parents qui ne sont pas encore dans un conflit extrême et qui arrivent encore un peu à communiquer en ayant recours à la médiation familiale. Et je pense que la médiation familiale, de toute façon, c'est la clé au moment du divorce, mais ensuite aussi au moment où l'enfant va grandir et va lui-même présenter des difficultés comportementales ou scolaires. Il faut que les parents aillent voir un médiateur pour apprendre et réapprendre parfois à communiquer. Ça, c'est la première chose, c'est la clé. Après, on a les situations d'extrême conflit. Et là, on a deux autres situations. On a les situations d'instrumentalisation de l'enfant de manière inconsciente. C'est-à-dire que le parent ne se rend pas compte finalement qu'il est en train de faire beaucoup de mal à son enfant. Et donc, je crois que là, le rôle de l'avocat est extrêmement important pour qu'il puisse en fait expliquer l'impact négatif de ce type de comportement sur les enfants. Et puis après, le juge aux affaires familiales qui, en fonction des éléments qui lui sont produits, s'en rend compte, peut lui ordonner une médiation, justement pour éviter ça. Et puis, il faut aussi se rendre compte que si ça va trop loin, il peut y avoir un signalement qui va être réalisé par l'école ou par l'autre parent ou par un hôpital à l'occasion d'une hospitalisation de l'enfant pour une opération à l'occasion d'une jambe cassée, hein, où on discute et on se rend compte à ce moment-là parfois de problématiques. Il peut y avoir un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Quand les enfants, on considère qu'il peut y avoir un danger pour eux, et qui va amener potentiellement à la saisine du juge des enfants, qui peut mettre en œuvre des mesures d'assistance éducative, parce que l'enfant est en danger. Donc, il faut aussi se rendre compte que le conflit peut avoir un impact négatif pour la vie quotidienne de tout le monde, et qu'il faut pour ça le limiter au maximum. Mais je crois au rôle de l'avocat, moi je dis la vérité à mes clients au quotidien. Il y a un point qui est extrêmement important, on ne gagne pas dans un divorce. Dans un divorce, on défend les points de vue de nos clients, mais il n'y a pas, personne ne gagne. Personne ne gagne parce qu'au milieu, il y a des enfants qui, de toute façon, eux, ne sont pas satisfaits. Ils veulent que leurs parents restent ensemble.
Oui, c'est vrai, c'est important de le préciser. Sylvie, tu veux peut-être partager ton point de vue d'enseignante, de directrice d'école, notamment sur ce que Marion mentionnait quand les enfants peuvent être au milieu d'un grand conflit de ce type et que je suppose que pour les enseignants, c'est difficile parce que vous êtes beaucoup impliqués même dans la psychologie de l'enfant et de trouver votre rôle pour les accompagner sans trop s'immiscer. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
Bah, déjà, moi, je suis d'accord avec ce que dit Marion, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre tout en œuvre pour le bien de l'enfant qui se retrouve au milieu de tout ça et qui, de toute façon, est perturbé. Nous, on le voit beaucoup, même les tout-petits, à 2 ans, 3 ans, un divorce, ça a toujours un impact sur eux, d'autant plus que les parents, à ce moment-là, vont pas très bien. Donc, du coup, ça rajoute du mal-être à l'enfant et qu'il est pour eux. Et nous, c'est vrai, comme tu disais, Stéphanie, on se retrouve au milieu de tout ça. Et puis, parfois, les parents nous prennent à témoin, nous demandent des attestations. Et là, c'est hyper compliqué pour nous. Donc, c'est vrai que je pense que la médiation, c'est hyper important. Et puis aussi, quelque chose dont je vais parler, c'est que souvent, le choix est fait de la résidence alternée, qui me paraît bon, très bien aussi, mais l'enfant se retrouve avec sa valise chaque semaine à changer d'endroit. Et moi, j'ai vu des enfants qui oublient des affaires chez l'un, donc du coup, ils n'ont pas leur cahier, ils n'ont pas leur livre, et puis donc ils stressent beaucoup. Et donc, je pense que ça, il faut y penser beaucoup aussi quand on fait le choix de la résidence alternée, c'est de vraiment bien organiser les choses pour que l'enfant se retrouve pas d'un côté avec une organisation où tout est strict, on fait bien les devoirs, on pense à faire le cartable, etc. Puis de l'autre côté où c'est un peu plus liberté. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour l'enfant. Et nous, on se retrouve vraiment souvent dans des situations hyper compliquées. Donc, je pense que, ouais, il faut pas mêler trop l'école à tout ça et penser à quelqu'un d'extérieur qui peut aider les parents, l'enfant au milieu de tout ça. Et puis, peut-être aussi faire un suivi psychologique de l'enfant. Parce que parfois, il a peur aussi de faire de la peine à l'un ou à l'autre. Il culpabilise, comme vous disiez, il se demande si c'est pas de sa faute. Et puis, il n'ose pas parler à ses parents. Nous, parfois, ils nous disent des choses parce qu'ils n'osent pas le dire à leurs parents. Parce qu'ils voient que un des parents souvent va mal ou les deux vont mal et ça rajoute encore de la difficulté. Donc, je pense qu'il faut faire accompagner les enfants par un psychologue, par quelqu'un, si on veut qu'ils grandissent sereinement, justement.
Alors, si je peux me permettre, pour rebondir, Sylvie, sur ce que vous êtes en train d'indiquer, sur le suivi psychologique de l'enfant, je partage totalement ce point de vue. Hein. Je pense que c'est important d'assurer un suivi. Mais c'est aussi important pour les parents qui vont mal d'avoir eux-mêmes un suivi psychologique. Parce que, en réalité, un parent qui va bien, c'est souvent un enfant aussi qui vit bien le divorce et qui vit bien la résidence alternée. Et sur ce dernier point, l'organisation du quotidien est évidemment essentielle et l'école ne doit pas du tout être mêlée à cette situation. Pour l'enfant, c'est une contrainte de plus, il se sent différent vis-à-vis de l'école de ses camarades. Donc c'est pas possible, on peut vraiment pas fonctionner de cette manière-là. Et donc chaque parent doit avoir chez lui les affaires, un trousseau complet. L'enfant, il doit être chez lui de la même manière, chez l'un et l'autre, une semaine sur deux. Hein. Ça, c'est une certitude, on ne peut pas faire autrement.
Et comment ça se passe si l'enfant n'est pas satisfait du système de garde ?
Alors, si l'enfant n'est pas satisfait du système de garde, encore une fois, il a la possibilité d'en faire part à l'un de ses parents ou à ses parents qui devront, dans ces cas-là, en discuter. Et si la garde mise en place, c'est une garde alternée, là, on va avoir une difficulté. On va avoir une difficulté parce qu'en réalité, l'enfant va dire « moi, je ne veux plus de garde alternée » et donc l'autre parent va... un de ses parents, on va dire à son papa, et le papa va en parler à la maman, et la maman va dire « mais moi, il m'a pas dit ça ». Donc on va rentrer déjà on va recommencer sur un conflit, parce que si l'enfant veut plus de résidence alternée, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va moins voir son enfant. Et là, il va falloir sortir évidemment, en tout cas se mettre à distance de son propre intérêt pour l'intérêt de l'enfant. Et c'est extrêmement difficile pour les parents parce que le parent peut aussi très mal le vivre en se disant « mais finalement, en fait, avec moi, il n'est pas heureux ». Et le faire ressentir à son enfant. Et ça, c'est vraiment une situation qui est très difficile puisque la seule solution, c'est que l'un des parents, s'ils ne sont pas d'accord pour y mettre un terme à la résidence alternée de manière amiable, saisisse le juge. Et il va devoir saisir le juge. Et le juge, là, il va falloir, pour qu'on mette un terme à la résidence alternée, vraiment faire une démonstration du mal-être de l'enfant. Ça veut dire qu'en fait, pour mettre un terme à la résidence alternée, il va falloir que l'enfant aille mal. Et donc, c'est pour ça que il faut privilégier encore une fois la communication parentale via une médiation si c'est nécessaire et via la consultation parce que on parle beaucoup des thérapies de couple, mais il y a aussi des thérapies familiales. Et je pense qu'en séparation, et là c'est pas la médiation, hein, je parle vraiment d'une thérapie familiale où l'enfant va être au cœur de la discussion puisqu'il va donner son avis et on va pouvoir lui poser, les parents seront présents pour poser des questions en présence d'un tiers bienveillant évidemment qui va les aider finalement à prendre une décision en commun. Et de toute façon, c'est toujours la meilleure solution pour les enfants.
Super. Est-ce que vous voyez d'autres erreurs à ne pas commettre vis-à-vis des enfants lorsqu'on est sur le point de divorcer ou même lorsque l'on est divorcé?
Il faut éviter d'afficher auprès de l'enfant le conflit parental. Il peut y avoir un conflit, mais il peut aussi, ce conflit, et il doit être réglé hors de la présence des enfants. Au quotidien, il faut maintenir une image de l'autre parent très positive. Il faut éviter, évidemment, de modifier leur habitude. Ils vont déjà subir une modification. Il faut vraiment qu'il y ait une stabilité dans leurs habitudes de vie. C'est trop difficile pour eux. Il faut se centrer en continu. Quand on part dans tous les sens, il faut se dire « je vais revenir à l'essentiel, c'est l'intérêt de l'enfant ». Puisque de toute façon, le juge ne statuera que dans ce sens-là. Et le dernier point qui est important, c'est que les parents, à mon sens, doivent comprendre une chose, c'est que ni l'avocat, ni le juge n'est dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est eux qui sont à même de déterminer les meilleures solutions pour leur enfant.
Vous avez complètement raison. On arrive déjà à la fin de cette conversation et je trouve que vous avez expliqué les choses très clairement. Merci beaucoup pour tout ça. J'aimerais vous poser une toute dernière question pour terminer sur une note un peu positive. Peut-être que vous pourriez témoigner ou nous partager un exemple ou quelques conseils autour des divorces qui se passent bien. Qu'est-ce que ça veut dire un divorce qui se passe bien et est-ce que ça dure dans le temps ?
Alors déjà, je voulais vous remercier également de m'avoir proposé de réaliser cette interview. C'était pour moi extrêmement intéressant de pouvoir partager un peu ma pratique. Et puis, pour répondre à votre dernière question, je pense que les divorces qui se passent bien, ce sont des divorces qui se font en bonne intelligence, où chacun des parents commence à reconnaître ses torts. puisque de toute façon c'est jamais blanc ou noir, et qui décide de passer et au-dessus de des conflits pour accompagner l'enfant en pensant évidemment à son avenir. Ça c'est vraiment de la manière dont je pense que ce sont les divorces les plus positifs. Et moi je suis impressionnée par certains de mes clients qui arrivent et qui me disent qu'ils vont eux très mal, mais qui savent que pour leur enfant, ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et je connais un certain nombre de séparations où les enfants, finalement, bien sûr que c'est dur pour eux, parce que c'est toujours difficile pour eux, mais ils s'en sortent extrêmement bien. À l'école, ça se passe bien. Ils y trouvent beaucoup d'intérêt, puisqu'ils ont plus de cadeaux à Noël, plus de cadeaux à leur anniversaire. Ils voient aussi plus leurs grands-parents. Ils ont aussi une ouverture qui est plus importante, parce qu'on fait des choses différentes avec chacun des parents.
Et je pense même aux familles recomposées.
Oui, tout à fait. Et puis les familles recomposées, alors je pense que parfois ça peut être au début difficile, mais en général, c'est très enrichissant pour les enfants, qu'ils soient uniques hein, ou qu'ils soient d'une fratrie déjà composée de deux ou trois enfants. Pour eux, la fratrie recomposée, ça permet d'ouvrir l'esprit, de créer des nouveaux liens qui durent en général dans le temps. Il y a peu, alors parce que maintenant on commence à avoir un recul sur les fratries recomposées, il y a peu de fratries recomposées qui coupent les liens quand ils deviennent adultes. Donc en fait, on crée une famille très grande, ce qui veut dire aussi beaucoup d'amour et beaucoup de personnes auxquelles on peut se rattacher quand on est en difficulté.
Oui, et c'est essentiel. Merci beaucoup Marion.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.